Alors, la semaine dernière, notre frère Michel nous a conduit dans une première étude de Genèse chapitre 3. Vous avez peut-être reconnu cette première partie qu'on a lue et considérée la semaine passée, ce récit de la rupture entre Dieu et les premiers humains avec qui il avait formé une alliance. Et avec Michel, on avait vu une fausse idée qu'on avait débusquée, que c'était de la faute de la femme. Oui, on avait dit qu'il y a eu cette fausse idée que c'était de la faute à la femme, que la chute, c'est de la faute à la femme. Et on a vu avec Michel, et c'était vraiment un excellent message, comment Dieu valorise la femme. Que l'homme et la femme, ils sont vraiment co-responsables de cette grosse erreur et de cette rupture tragique. Et puis en même temps, par la grâce de Dieu, dans le plan qui va suivre, sont co-bénéficiaires, hommes et femmes, et co-partenaires à valeur égale dans le plan de rédemption. Maintenant, le chapitre est tellement important qu'on va le revisiter cette semaine pour considérer les questions suivantes. Alors, excusez-moi. Écoutez, ce qu'on va faire, on va juste continuer la lecture, puis je vais vous dire les questions après. Alors, merci à Carl qui avait lu la première partie. Je vais poursuivre la lecture. Mais d'abord, prions. Oui, Père, ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur maintenant et parle-nous par ta parole. Amen. Alors, soyons attentifs. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alors, voici mes trois questions. Je ne pourrais pas tout couvrir. Il y a tellement de questions que ce texte fait surgir dans notre esprit. Mais première question qu'on va regarder ce matin, en quoi consistait l'erreur fatale commise par Ève et Adam? Et comment y faire face, comment l'éviter aujourd'hui? Deuxièmement, quelles sont les conséquences de la rupture qui a eu lieu et comment les reconnaître dans notre monde aujourd'hui? Puis troisièmement, comment l'amour de Dieu pour les humains se manifeste tout au long de ce drame? Et comment répondre à cet amour aujourd'hui? J'aimerais quand même dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à préparer ce message parce qu'il me ramène à la réalité de qui je suis devant Dieu. Comme dans l'histoire où est-ce que Adam et Ève ont... Enfin, je l'appelle Ève, c'est son futur nom. On va l'appeler Ève même avant qu'elle s'appelle Ève. Avant Adam et Ève... font ce geste de rébellion, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui leur arrive? Leurs yeux s'ouvrent, et puis ils voient leur réalité d'une nouvelle manière. Mais moi aussi, en lisant, en relisant ce texte, j'ai revu ma réalité, enfin, ma réalité d'humain héritier d'Adam et Ève. Ma situation de pécheur. Je n'ai pas aimé cette expérience, mais il faut passer par là régulièrement pour vraiment se replonger dans l'Évangile qui est notre source de vie. Il faut revenir à cette histoire de Genèse 3 pour nous situer. Un autre obstacle que j'ai ressenti en étudiant ce texte, c'est l'opposition de beaucoup de personnes dans notre société. Ça résonnait dans ma mémoire pendant que j'étudiais ce texte. Les gens vont dire, par exemple, Genèse 3, c'est pas historique, c'est uniquement symbolique, un peu pour radoucir ce que c'est vraiment. Et en réalité, c'est les deux. C'est historique et symbolique. C'est un récit divinement inspiré, où l'auteur utilise certains symboles et figures, mais pour raconter une rupture qui a vraiment eu lieu dans le passé et puis qui explique notre réalité d'aujourd'hui. D'autres vont dire que c'est un conte mythique qui nous montre comment nous sommes dans un genre de drame qui a toujours existé, que nous naviguons entre le bien et le mal, et puis ça fait partie de la vie. Puis en fait, ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ou c'est tout au moins pas ça que le texte affirme et veut qu'on comprenne. C'est vrai que des fois, on a l'impression de naviguer entre le bien et le mal, mais ce que le texte affirme, c'est que le mal, le péché, n'aurait jamais dû faire partie de notre réalité. En fait, Dieu a créé la situation humaine pour qu'on vive dans le bien, dans la relation avec Dieu et dans la liberté de choisir uniquement le bien. Puis, il y a eu un incident scandaleux et inexplicable qui fait que le péché est entré dans le monde. Et c'est ça qui est arrivé et il faut le comprendre comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous faisons partie de l'armée qui combat le mal. Hein? On ne justifie pas le péché. On ne dit pas, ben ça fait partie de la vie. On dit plutôt, Dieu va écraser l'ennemi de Dieu. Il l'a déjà écrasé à la croix. Et nous faisons partie de l'armée qui combat le mal, qui combat la souffrance, qui combat la rébellion contre Dieu dans le monde jusqu'au jour de sa destruction finale. Amen. OK, donc, une nuance qui est souvent perdue, mais très importante. Je rajoute qu'un élément par rapport à combattre le mal, c'est résister à la tentation. Si on trouve que le mal puis le bien, ça fait partie de la soupe de la vie, ben on va être plus tenté de se laisser aller quand on va être tenté par quelque chose qui ne vient pas de la volonté de Dieu. Et Jésus, il est vraiment dans cette haute lignée de pensée quand il a dit, « Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est mieux que tu rentres dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de te retrouver en enfer avec tes deux yeux. » C'est comme ça que Jésus parle souvent. On appelle ça l'hyperbole. C'est une manière vraiment accentuée pour dire « faut résister à la tentation » ou tout au moins, avec l'aide de Dieu, il faut apprendre à dire non à la tentation. Revenons maintenant aux trois questions Et la première, c'est en quoi consistait cette erreur fatale commise par Ève et Adam? Et puis comment la reconnaître aujourd'hui, comment l'éviter aujourd'hui? Et on en a parlé déjà avec Michel. Merci de revisiter cette question avec moi pour aller un peu plus profond peut-être. Il y a dans notre société plusieurs interprétations qui sont proposées, mais qui sont des fausses pistes, et des excuses justement pour ne pas revenir à Dieu. Un peu comme le serpent lui-même dans cette histoire qui a dit, ben en fait, Dieu a-t-il vraiment dit, ou plutôt, ah, c'est donc dommage que Dieu vous a donné un commandement vraiment égoïste et méchant pour protéger ses propres privilèges. C'est donc dommage, Ève, que vous avez un Dieu comme ça, puis elle s'est laissée gagner par ce faux raisonnement. Eh bien, il y a d'autres propositions comme ça aujourd'hui. On va dire, ben en fait, Dieu, en donnant le commandement de pas manger de cet arbre, c'était contre la sexualité. C'est que Dieu, il ne voulait pas que les humains profitent du plaisir de l'intimité sexuelle. Et donc, c'est la preuve que Dieu est méchant et qu'il faut pas prendre la Bible au sérieux. D'autres vont dire, ah, Dieu, il ne veut pas que vous soyez connaissant. Il ne veut pas que vous étudiez la science. D'autres, ils vont dire, en fait, c'est contre les femmes. Dieu ne voulait pas que les femmes s'instruisent. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit de ne pas manger, puis qu'il était fâché que Ève mange. D'autres vont dire, Dieu est contre le bon jugement moral cette interdiction était mal pensée de la part de Dieu. Tout ça, c'est des manières de discréditer Dieu et le texte et le commandement. Mais c'est des fausses pistes. Quand on lit le texte attentivement, on vit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est quand même pas facile de... Ce n'est pas facile d'étudier ce texte. On voit que le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, contient quand même quelque chose qui, aux yeux humains, est souhaitable, c'est-à-dire l'acquisition d'une sagesse pour pouvoir prendre des bonnes décisions de vie. Une acquisition de sagesse pour pouvoir prendre des bonnes décisions de vie. Et c'est ça qui était trompeur, c'est que en soi, il y a quelque chose de bon là-dedans. On veut tous plus de sagesse pour être capable de prendre des bonnes décisions dans la vie entre le bien et le mal. Mais ce qui est clé ici, c'est qu'il faut rechercher cette sagesse chez Dieu et puis chez Dieu seulement, d'accord? Donc, cette sagesse pour prendre les décisions morales, les décisions entre la volonté de Dieu et le péché, il faut rechercher ça auprès de Dieu seulement. Et comme j'ai mis tantôt, erreur que Ève aurait dû réaliser, il ne fallait pas aller auprès de Satan pour rechercher cette sagesse. Cette sagesse, on l'obtient seulement quand Dieu nous accompagne là-dedans. On a été créé à l'image de Dieu, donc pour le refléter, mais aussi pour être soumis à lui, pour apprendre à discerner le bien du mal, il faut marcher en lui, il faut marcher sous sa tutelle, en quelque sorte. Et peut-être que ça heurte notre orgueil d'entendre ça, mais on a été créé pour ça. Ici, première erreur, si c'est Satan lui-même qui nous offre cette sagesse, parfois ce sont les sciences occultes qui vont dire, viens chez nous, tu vas avoir une vraie sagesse. Et ils vont présenter ça, c'est pour le bien. Et voilà le danger. C'est en Dieu seul qu'il faut faire cette recherche. Il ne faut pas rechercher cette sagesse à l'intérieur de nous-mêmes, ou tout au moins penser que c'est la source principale. Et il ne faut pas non plus la rechercher par nous-mêmes seulement, qui est l'erreur de notre monde moderne, qui dit c'est la rationalité humaine et scientifique seulement qui doit nous guider. En persévérant, si Ève et Adam avaient persévéré à rechercher cette sagesse en Dieu seul, en continuant à communier seulement de l'arbre de la vie pour recevoir cette sagesse, eh bien, ils seraient devenus de plus en plus sages, ils seraient restés dans le bien, ils n'auraient pas connu le péché. Mais à la place, l'ennemi les a séduits, il les a convaincus qu'ils pouvaient devenir sages en se libérant de la dépendance de Dieu pour rechercher cette sagesse par eux-mêmes. Et en quelque sorte, comme Paul dit ailleurs dans le Nouveau Testament, en cherchant à être sages, ils sont devenus fous. Mes amis, notre erreur aujourd'hui, ce n'est pas de connaître trop de choses. Des fois, les chrétiens, on peut avoir peur de la science. On peut avoir peur des études. Ce n'est pas les études universitaires qui sont le danger, ni même la technologie. On va dire la technologie elle-même est dangereuse. Ce n'est pas ça qui est dangereux. On a vu il y a quelques semaines que Dieu a donné la science à Adam, lorsqu'il lui a dit, « Bon, mais là, premièrement, tu peux aller dans le jardin complet, tu peux profiter de tous les arbres et tu peux nommer les animaux. » Et il a commencé un travail scientifique pour les nommer. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la science, ce n'est pas le sexe. C'est ce sentiment d'indépendance face à Dieu lorsqu'on avance dans la connaissance et qu'on se dit « Je n'ai plus besoin de Dieu. » C'est cette séduction-là qui est le danger encore aujourd'hui. Lorsque nous sortons de notre dépendance de Dieu, enfin, nous en tant que chrétiens, évidemment, il y en a qui ne sont jamais rentrés dans la dépendance de Dieu et qui doivent y entrer. Mais s'ils n'y entrent pas, ou si on sort, ils deviennent comme Adam et Ève. Pensons, mes sœurs et mes frères, à l'exemple de Salomon, le roi Salomon, qui est célébré dans l'Ancien Testament comme le plus sage des rois d'Israël et peut-être de la terre. Et quand on voit son parcours de vie, ça commence bien, mais ça finit mal. Il devient tellement connaissant que quand on lit l'histoire, progressivement, il se détache de la dépendance de Dieu et sa vie se termine dans la confusion morale. Et en plus, c'est quand même assez clair qu'il commence à marier des femmes, il commence à collectionner, excusez-moi le terme, il commence à collectionner des concubines païennes. Et ces personnes, peu à peu, commencent à influencer sa relation avec l'Éternel à travers leurs propres cultes qui sont un mélange de toutes sortes de choses. Et il termine sa vie, on peut dire, séparé de la sagesse de Dieu, et Dieu n'est pas content avec lui. Mais au début de sa vie, remarquez cette prière qui nous est donnée comme exemple, et c'est cette prière-là que je nous demande de... C'est cette prière qui... Excusez. Voilà. Cette prière qui est l'attitude qui est la prière que nous devons avoir en tant que personne réconciliée avec Dieu par grâce. Salomon avait dit, « Je ne suis qu'un homme jeune. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple. » Il était déjà devenu roi. Hein? Ce peuple que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Intéressant, hein? C'est la même expression, distinguer le bien du mal, qui était le nom de l'arbre, hein? L'arbre défendu. Dieu veut qu'on apprenne à distinguer le bien du mal, mais seulement en lui, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Même si tu es un grand scientifique, tu as besoin de cette relation avec Dieu pour rester pur, rester intelligent dans la distinction entre le bien et le mal. Pour les serviteurs de Dieu, que ce soit Patrick, tu as commencé récemment un poste vraiment difficile, un peu comme Salomon, je crois que tu es responsable pour Jeunesse pour Christ, pour tout un pays, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. David Tracy, pour une grande région qui est le Québec, le Canada francophone, et ça ne fait pas tellement longtemps non plus. Et les pasteurs, c'est la même chose. Ça commence souvent bien parce qu'on est comme Salomon, on a peur, on dit « je ne suis pas capable, j'ai vu mes prédécesseurs et je ne suis vraiment pas à leur niveau, la tâche est immense, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. » Ça commence toujours bien, mais avec le temps, on commence à se dire, bien, finalement, je commence à trouver des trucs, je commence à être pas pire. Et la même tentation qui a atteint Salomon, elle atteint les serviteurs, les servantes de Dieu qui ont des rôles importants et qui finissent par se laisser aller, par ne plus faire appel à Dieu. En fait, c'est la même chose pour chaque chrétien et chaque chrétienne. On commence dans la vie chrétienne. Shadan, tu nous disais la semaine passée, j'ai fait un pas, j'ai demandé à Jésus de rentrer dans ma vie. Et puis, au début, on se dit, mais je ne sais pas comment faire, Dieu aide-moi. Il faut toujours rester dans cette humilité. Un petit conseil que je te donne, ne deviens jamais trop sûr de toi. Ça, c'est le défaut qui a été la perte de Ève, d'Adam et même de Salomon. On continue avec la question numéro 2. Quelles sont les conséquences de la rupture d'après ce texte? Comment les reconnaître dans notre monde aujourd'hui? Évidemment, je pourrais vous parler toute la journée là, de ça. Je ne le ferai pas. Vous inquiétez pas. Mais oui, ça, ce verset m'a frappé comme une douche froide. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ça, c'est arrivé automatiquement. Dieu n'a rien dit. C'est comme arrivé comme ça. Et il y a une grande ironie dans ce qui vient de se passer ici. Dans le jardin. Adam a été créé pour vivre dans la dépendance de Dieu et en quelque sorte sa nudité, dont il n'avait pas honte, mais en quelque sorte sa nudité, ça reflète sa fragilité, ça reflète sa dépendance envers Dieu. Et je vais peut-être vous faire rire, mais moi quand je suis tout nu puis je me regarde devant le miroir, ben je sens que là, je suis juste un être créé et puis je me sens fragile. Je me sens c'est peut-être l'expérience de tous. Notre nudité nous rappelle qu'on est créé dépendant. Non, mais sérieusement, on a un sexe, donc on est mâle ou femelle, donc ça nous rappelle qu'on est un peu dépendant de l'existence de l'autre sexe. On est un être créé, on est partiel, on est limité. Et puis, c'est ironique que Adam, qui fait ce geste, de devenir son propre Dieu en mangeant, ben qu'est-ce qui arrive après? Ben il faut qu'il cache sa fragilité. Et il dit, ben là, je suis un Dieu, mais j'ai pas de l'air d'un Dieu. Ben on va cacher ça! C'est quand même intéressant. Et il se fait une ceinture, certaines traductions disent une pagne, et Ève aussi, et il se couvre. Alors, premièrement, en Jésus-Christ, qui a rétabli toute chose, on n'a pas à avoir honte de notre nudité, de nos parties intimes. Elles sont bonnes, Dieu les a créées. Et en même temps, quand même, habillez-vous avant de venir à l'église. on n'est pas rendu dans le royaume éternel. Et même, il y en a qui disent, il y aura aussi des vêtements au royaume des cieux, des vêtements qui brillent. Enfin, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas. Mais Adam a senti, lui, une honte qui vient de l'orgueil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a eu honte de sa nudité à cause de son orgueil de Dieu. Je suis un Dieu, j'ai voulu être autonome, et puis au fond, il savait qu'il ne l'était pas. Et comment il se couvre, et la femme aussi. Et aujourd'hui, nous continuons à jouer ces jeux de dissimulation les uns avec les autres, même si on s'habille, mais c'est un peu dans notre tendance de cacher qui nous sommes vraiment. Même avec notre conjoint, même avec les gens qui sont proches de nous. Sharon me racontait une histoire qui est arrivée dans une de ses écoles. Et il y avait la directrice de l'école qui a prêté son bureau à la sous-directrice pour parler à un étudiant. Et puis la directrice est rentrée et puis elle a vu que la sous-directrice, elle était assise dans la chaise de la directrice derrière le bureau. Et puis quand l'entretien avec l'enfant était terminé, elle a dit, « Bon, peux-tu quitter? Il faut que je parle à ma sous-directrice. » Et elle lui a dit, « Ne t'assois jamais dans ma chaise. » Et bon, on a parlé de ça, Cheryl et moi. On s'est dit, « On n'est-tu pas orgueilleux? » C'est vrai qu'il y a des situations qui justifient ce genre de choses, mais il y a aussi... Hein, le bureau qui représente que moi, je suis supérieur à toi et en quelque sorte, je me fais un Dieu pour moi-même. Et bon, je ne veux pas lire trop dans cette histoire, mais on a senti que c'était une réaction qui était trop, trop orgueilleuse ou trop... On joue des jeux continuellement les uns avec les autres. Et il y a eu d'autres conséquences de la chute qui étaient comme automatiques, à part cette honte. Il y a eu la peur. Ève et Adam ont eu peur de Dieu tout d'un coup. Ça venait d'où, ça? Ils ont fui Dieu. Ça venait d'où, ça? On le voit partout aujourd'hui. La fuite de Dieu... Je me posais une question. Cette semaine, je me suis joint au gym à Dorval, le nouveau gym commercial, et ça ne coûte pas cher. Et il y a plein de monde qui se sont joints au gym. Et je me suis dit, imaginons qu'on ouvrait une salle de louange et de prière au centre commercial Dorval, et on dit, ça coûte juste 5 $ par mois. Pensez-vous qu'on aurait beaucoup d'abonnés? Je veux dire, je l'espère bien, mais... Tout le monde a peur de Dieu, tout le monde est mal à l'aise avec Dieu, et même les chrétiens, on n'a-tu pas de la misère à prier? Ne nous cachons pas les faits. On est affecté par qu'est-ce qui s'est passé dans la chute. Heureusement que Christ est là pour nous transformer de l'intérieur. La peur, la fuite de Dieu, changement du rapport à la nature. Avant, le jardin, c'était le lieu de rencontre avec Dieu. Après, ça devient le lieu où on se cache de Dieu. Avant, c'était le lieu où on recevait les dons de Dieu avec remerciement. Et après, on prend les dons de la nature pour se couvrir par rapport à Dieu, pour faire des ceintures. Toutes ces choses existent encore aujourd'hui et même dans nos vies. Dans la communauté chrétienne, on veut être vrais les uns envers les autres. Revenons à cette question de nudité et de vêtements. Oui, on s'habille quand on vient à l'Église, mais soyons vrais les uns envers les autres. Et surtout, soyons vrais et transparents avec Dieu. La croix à laquelle nous sommes invités par Christ, c'est une croix, je ne sais pas si vous savez, mais Jésus était fort probablement complètement dénudé sur cette croix. Dans sa fragilité la plus extrême, il nous a représentés dans notre péché. Hein? Il est devenu notre propre condamnation. Et lorsque nous regardons à Christ ensemble à la croix, nous voyons sa fragilité et même notre propre culpabilité. Et donc, il n'y a pas de raison de cacher. Soyons vrais devant Dieu et apprenons à être honnêtes les uns avec les autres dans l'Église. Paul le dit bien dans Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Une nouvelle réalité qui nous ramène au-delà du jardin d'Éden. Puis, je voulais mentionner un autre type de changement qui est arrivé ce jour-là, c'est ce que Dieu a décrété. Hein? Il y a une hostilité qui a lieu entre les animaux et les hommes. Alors, il y a celle qui est symbolique entre Satan et les hommes, mais c'est quand même intéressant que c'est le premier moment où il va y avoir de l'hostilité entre les animaux et l'homme. Il y a la tension qui est décrétée, c'est triste, une espèce de tension qui est décrétée dans le couple homme-femme. C'est terrible. Il y a une vulnérabilité de la femme dans le domaine du couple et de la reproduction qui est annoncée par Dieu ici, qui n'était pas là à l'origine, mais elle est annoncée par Dieu ici, non pas comme un ordre, mais comme une conséquence de la chute qui va un jour être réparée. Puis il y a la terre qui devient hostile envers l'homme, le travail qui devient pénible, le travail qui, au départ, était quelque chose de joyeux est devenu un combat pour la survie. Et puis finalement, bien sûr, la mort. Oh, est-ce qu'on a perdu Réjean? Un instant, s'il vous plaît. Il a peut-être raccroché, je ne sais pas. Je le rappelle-tu? Je le rappelle. Why not? Un peu de musique, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est Réjean? Vous écoutez, OK. OK, c'est bon. Parfait. Bon. Je voulais dire que il y a une ambiguïté pénible à propos de la mort. Et ça, on s'en rend compte même aujourd'hui. On sent, dans un certain sens, que la mort est naturelle parce qu'on a été tiré de la terre, comme les animaux. On voit que les animaux meurent, donc on se dit, mais c'est naturel qu'on meure aussi. Et en même temps, on sent, à cause de ce souffle que Dieu a mis en nous, qu'on a ce désir d'éternité et ça vient heurter ce désir. Et on peut en parler à nos amis non-chrétiens de cette ambiguïté. D'abord, la mort qui agit déjà en nous, dans nos corps vieillissants et qui deviennent malades, mais aussi lors du décès d'un ami ou d'un être cher, et qu'on sent cette ambiguïté, ce scandale de la mort, on est capable de dire à notre ami, est-ce que tu ne ressens pas comme moi que ce n'est pas normal la disparition de notre ami, la disparition de cet être cher? Est-ce que tu ne ressens pas comme moi qu'il doit y avoir plus? Et je pense qu'il faut en profiter parmi nos amis et nos membres de famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Poursuivons avec la troisième question. C'est que, bien, la question, elle est la réponse. L'amour de Dieu se manifeste pendant toute cette histoire tragique, depuis le début jusqu'à la fin. Et cet amour nous invite à répondre. Ce qui me frappe le plus personnellement, c'est justement ça dans cette histoire. Dieu reste engagé, et il reste engagé du côté de l'homme, du côté du bien des êtres humains. Les punitions dans cette histoire, elles servent toutes à ramener la race humaine à réaliser qu'elle a été créée comme image de Dieu et pour fonctionner avec Dieu, et non pas comme une fausse divinité autonome. Puis que c'est possible, ça va être possible de revenir à cela. La mort en particulier que Dieu décrète ici est aussi un rappel qui vient de Dieu, un rappel d'amour, un rappel de grâce. Parce que nous, nous nous sommes engagés dans la folie, et dans ce contexte, la mort, notre propre mort, est un don de Dieu. Écoutez ce que dit le prédicateur David Gibson, et je suis tombé sur un écrit de lui récemment, ça m'a beaucoup frappé ce qu'il a dit dans ce sermon. Il dit, « La mort donne la vie. Le jour de ta mort est meilleur que le jour de ta naissance. » Aïe, aïe. « Ta vie sera un combat constant contre l'idole qui est toi-même, contre la fausse divinité du soi. Et cette idole va être nourrie toute ta vie par l'idée vaine que tu es une créature immortelle pouvant survivre sans la soumission réelle à Dieu. Or, Dieu qui t'aime possède un outil qui peut démanteler cette idole devant tes yeux, puis cette idole-là, c'est ta propre mort, enfin, qui est dans le futur, mais proche ou pas, on ne le sait pas. Ta propre mort, c'est ce marteau, ce tournevis que Dieu utilise pour démanteler cette idole que tu es constamment en train de reconstruire. Par elle, Dieu te dit, n'oublie pas, ta vie est limitée. Reviens à moi. Mets-toi dès aujourd'hui à vivre ta vie comme elle doit être vécue, en relation avec moi. Puis j'aimerais rajouter, non seulement il y a ce décret de la mort, mais il y a ce qu'on appelle le protévangile, le fameux décret que Dieu a donné au serpent, que les chrétiens ont toujours vu comme la première annonce de l'Évangile. Dès le départ, Dieu annonce dans une forme codée l'Évangile. Il dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, on va lire cet autre verset dans quelques instants, mais on va décoder le code parce que Israël, pendant des siècles, ils ont lu cette annonce codée. Et puis, j'imagine qu'ils se disaient, mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Dieu va faire de quoi? Mais on ne sait pas c'est quoi. Puis nous, aujourd'hui, on le sait parce qu'on a connu l'Évangile de Christ. Et bien, bon, voilà. Lisons ça maintenant, là. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, il y a un écrasement du plan de Satan. Oh, pardon, j'ai failli baptiser je ne sais pas quoi. Voilà, je vais boire à la place. Alors, c'est de ça que ça parle. C'est de ça que ça parle. Le code, c'est que le serpent représente Satan. L'hostilité de Satan envers nous, c'est qu'il essaye de nous entraîner dans sa rébellion depuis le jour qu'on est né. L'hostilité de nous envers lui, c'est qu'on sait qu'on ne veut pas tomber là-dedans, mais on n'est pas capable de résister. Et les humains travaillent fort. Même ceux qui ne connaissent pas Christ ne veulent pas être sous la domination de Satan, Mais il les a pareil. Il nous a pareil. Et le combat continue. Et le combat continue. Et puis, il y a cette fameuse partie à la fin, le talon, puis la morsure du serpent. Ça, c'est la vie de Christ, hein, vous comprenez. Christ a toute sa vie a été traqué par Satan qui a essayé de lui faire changer de plan, hein, il a essayé de le tenter vers d'autres, une mission autre. Ensuite, il a essayé de peut-être le faire roi. Il a essayé de le peut-être tuer avant le temps. Oui, en fait, c'était le cas quand il était bébé. Et oui, c'est... Comment je pourrais dire? Ben, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Il y en a qui n'ont pas aimé, mais ça, cette partie-là, j'avais trouvé bien que Satan, il est tout le temps dans ce film, il n'est pas loin en train d'essayer d'arrêter la vie de Jésus ou de le tenter, de le décourager. Et c'était vraiment ça. Tu lui mordras le talon, mais lui, qu'est-ce qu'il va te faire? Cette descendance de la femme, ça c'est un autre code, ça c'est Christ. Christ est le descendant de Ève. Et merci Ève au moins pour ça. Tu as eu des enfants. Et ses enfants ont eu des enfants, et d'eux sont venus Israël, et d'Israël est venu Christ. Alléluia. Et lui va t'écraser la tête. Ça, c'est la victoire à la croix que Paul annonce ici. Amen. Amen. L'ennemi est vaincu pour toujours. Le plan a été défait. Et le jour vient où on sera complètement libéré du mal. On est comme dans la bataille finale maintenant, où la guerre est déjà gagnée, mais... On est quand même vulnérable parce que Satan n'a pas encore dit son dernier mot. Mais c'est extraordinaire, oui. Et oui, Dieu a le dernier mot du dernier mot. Et ça va être merveilleux. Et est-ce que ce n'est pas extraordinaire que nous, on connaît le code de cette promesse codée? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire que... Nous pouvons bénéficier de cette victoire. Hey, vivons la vie chrétienne à 100%. Amen. Hey, je ne sais pas quoi dire. Allons-y, parce que nous sommes dans un plan. Je vais arrêter là-dessus. Écoutez, je vois qu'on a nos deux participants. Bon, oui, c'était quoi l'erreur fatale? On a vu ça. Les conséquences de la rupture, il y en a eu tellement terribles et elles sont visibles encore aujourd'hui. Troisièmement, notre Dieu d'amour a un plan. Puis moi, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que quand je vois que Laurelie est ici et puis que je vois que Francine est ici, et les deux, pourquoi je mentionne? Parce qu'elles donnent, elles sont tous les deux impliquées dans le cours Kairos qui va bien. Est-ce qu'il va bien, le cours Kairos? C'est bon. Le cours Kairos, c'est un cours, c'est quoi le plan de Dieu, puis c'est quoi ta place dans ce cours? Malheureusement, c'est trop tard pour s'inscrire, il est déjà presque à moitié fini. Ah, et Anne aussi, excuse-moi Anne. Anne est là. Est-ce qu'il y a d'autres? Timothy, OK. Ce cours, oui, il est donné en anglais. On va bientôt, je pense, le donner en français. Ce cours, c'est la grosse question, c'est, OK, voici le plan de Dieu. Depuis qu'il a donné la promesse codée, puis le plan qui s'est mis en branle. Mais toi, tu as un rôle à jouer. Si tu connais Christ, tu peux annoncer à d'autres personnes et même à des peuples nouveaux le plan de Dieu pour revenir comme image de Dieu rétablie et avec toute la guérison, avec toute la cure d'âme, avec tout le pardon, avec tout l'amour qui vient avec. Engageons-nous à 100%, comme il est dit dans ce cours Kairos. Engageons-nous dans l'oasis, parce que nous, ici, dans notre petit coin du monde, on fait partie du plan, le plan de rédemption, parce qu'on annonce, nous aussi, que oui, toi, tu peux te réconcilier avec Dieu. Et ce Dieu connaît tes problèmes et il veut t'en libérer. Continuons à nous réjouir de l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est pour ça que j'aime vraiment l'Alliance chrétienne et missionnaire, parce qu'à chaque dimanche presque, on nous rappelle, prions pour nos missionnaires, prions pour nos implanteurs d'église, prions pour ce plan de Dieu qui a commencé il y a longtemps, puis on est dans le chapitre final, mais on est encore en plein dedans, puis il y a une place pour chacun d'entre nous. Amen! Et est-ce qu'on veut répondre à Dieu par la louange et le remerciement?